Lazy Weeks.
OK, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des Québécois qui paradent devant leur caméra d'ordinateur et qui parlent à LCN et à RDI et qui qui ont pas peur. Je pense que la panique n'est pas prise. C'est peut-être pas le bon terme. C'est des gens qui sont qui s'interrogent, des gens qui sont à l'intérieur de leur résidence. T'es en train de m'étouffer avec un café. Mais qui se posent des questions à savoir pourquoi ça a toujours été tranquille dans ce coin de pays et pourquoi ça brasse autant. On va essayer d'avoir des clés de compréhension de tout ça avec JBG, Jérôme Blanchet-Gravel, qui est sur place au Mexique. Salut Jérôme, comment ça va ce matin?
Bonjour monsieur, ça va très bien.
T'es dans quel coin, Jérôme?
Moi, je suis à Oaxaca de Juarez, c'est une ville au sud, donc qui est peu touchée en théorie par ce qui s'est passé hier. Mais c'est national, hein, le phénomène est national. C'est une onde de choc partout au Mexique. Mais Jalisco, c'est quand même un État plus au nord, plus à l'ouest.
Mais, Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe que c'est historique, d'abord, les Canadiens et les Québécois qui ont, qui ont pu assister malgré eux à cet événement-là hier ont assisté à un événement historique. Donc, la capture du chef du cartel le plus puissant sur le territoire mexicain, donc probablement l'homme le plus recherché sur Terre après Ben Laden, là, d'une certaine façon. Donc l'armée mexicaine, appuyée par la garde nationale, etc., a fait une opération là, de style, celle qui rappelle un peu bon, la capture de Maduro, entre guillemets. Et on est allé chercher ce type-là, et finalement, durant l'opération, il est décédé, il a été éliminé. Donc ça a créé rapidement des représailles. Donc, voitures incendiées, beaucoup de routes bloquées un peu partout. Même ici, dans l'État, autour de l'État de Oaxaca, par exemple, j'ai quelqu'un que je connais qui est aujourd'hui censé faire la route entre Puebla et Oaxaca. Et bon, hier, on a eu une discussion, est-ce que c'est vraiment indiqué de faire ça? Finalement, cette personne-là va faire le chemin aujourd'hui. Donc, les Québécois découvrent le Mexique. En passant, moi, j'ai toujours dit que c'était dangereux, le Mexique. Je n'ai jamais présenter le Mexique de manière idéaliste, quoi qu'on en dise.
Est-ce que c'est ça le vrai Mexique?
Oui. Ben, le Mexique, c'est paradoxal. Hein? C'est-à-dire, d'un côté, un pays extraordinaire, extrêmement riche, 130 millions d'habitants, c'est grand comme la Russie démographiquement. Un pays immensément riche en culture, une identité très forte, un nationalisme très affirmé, mais effectivement, une corruption systémique et des niveaux de violence inégalés. Là. C'est-à-dire, le Mexique est probablement le pays le plus violent d'Amérique. Je l'ai toujours dit. Écoutez, j'ai écrit un livre là-dessus, un Québécois-Mexico. C'est pas des cachettes. J'ai jamais joué la game Québec contre Mexique. C'est trop enfantin, là. C'est le grand paradoxe. C'est-à-dire, un pays qui est extraordinaire, mais qui est extrêmement violent en même temps.
Comment on en est arrivé à avoir une société comme la société mexicaine qui soit aussi corrompu à plusieurs niveaux, là. Tu sais, quand on se met à lire là-dessus. Niveau policier, les juges, les procureurs, pas tout, mais des procureurs, des juges, des politicos, des présidents, des chefs de district, des maires. C'est le cancer à la grandeur. Tu sais, tu te dis, ils vont-tu nettoyer ça à un moment donné? Ta perception, c'est quoi?
Ben, c'est la grande question, Moret, à laquelle j'ai encore de la difficulté à répondre. Hein, pourquoi l'Amérique latine est encore embourbée dans cette culture de la corruption? Bon, sans faire dans l'analyse trop marxiste, évidemment, ce sont des sociétés moins égalitaires que les nôtres, un système colonial mal digéré, sans doute. C'est-à-dire, c'est des pays quand même avec de très fortes hiérarchies qui, chez nous, ont disparu. Donc, évidemment, ça marche beaucoup par contact. Hein? C'est-à-dire, quand on connaît le Mexique, on s'aperçoit rapidement que c'est beaucoup par pistonnage que ça fonctionne, la société. Qui tu connais? Dis-moi qui tu connais, je veux te dire, qu'est-ce que tu peux faire, là? Donc, il y a beaucoup de ça ici. C'est beaucoup familial, c'est-à-dire des grandes familles encore, des héritiers, quasiment des seigneurs là, espagnols. Donc, des hiérarchies extrêmement fortes qui, tant qu'à moi, ont au moins alimenter cette culture de la corruption. Là, évidemment, à l'échelle du temps, on parle sur 200-300 ans. Et évidemment, la pauvreté. Hein, c'est quand même l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que tu restes un pays assez pauvre. Donc, tu sais, les gars qui sont des narcos, souvent, justement, ils viennent pas des grandes familles. Ils viennent pas du Mexique, fils à papa du tout. C'est pas les gars qui jouent au tennis l'après-midi, là. Vous comprenez? C'est des gens souvent de familles très modestes. Et avec une sorte de type d'imaginaire capitaliste à l'américaine, c'est-à-dire évidemment la volonté d'ascension sociale rapide, de société un peu de consommation, t'es matérialiste, ils aiment les guns, ils aiment les voitures. Donc un côté un peu colon aussi, cowboy, une société très cowboy. Puis bon, d'autres avanceraient évidemment la violence.
Macho.
Macho, oui, effectivement, quand on pense juste, par exemple, à Christiane Nodal, que moi j'aime beaucoup, mais qui est à peu près le Éric Lapointe du Mexique. Et pour vous, tu sais, toutes les chansons de Nodal, ça tourne autour. En gros, il a trompé sa femme, puis il est chaud. En gros, c'est pas mal les deux thèmes qui gravitent autour de sa musique. Et les Mexicains adorent ça. Donc, très machiste, très alcoolique. Un pays, mais écoutez, là, c'est un pays ravagé par l'alcool. Donc, Nodal, on le voit
tequila
par exemple dans ses
clips.
Mezcal. Puis c'est pas un cliché, hein, je le dis par amour. Hein. Écoutez, dans les cantinas au Mexique, les bières, ça vient par paquet de deux. Là. Tu peux pas en commander une. Donc, il y a des quartiers au Mexique, il faut carrément contourner.
Ben oui, j'aimerais ça.
Hein? T'en prends un, j'en prends un.
Ah ouais, à deux je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct et je le dis par amour encore une fois. Oui. Le Mexique est une réserve indienne de 130 millions de personnes.
Quintouin. Non cédé?
Non cédé. Ouais, on peut dire ça, non cédé. Une conquête aussi mal gérée, oui. La conquête évidemment, ben, du Mexique.
Encore c'est, beaucoup c'est d'autochtones.
Abraham.
Il y a beaucoup d'autochtones. Quand tu dis une réserve indienne, on comprend que c'est une formule grosse qui saisit, mais il y a beaucoup là-dedans d'autochtones. Il y a beaucoup d'autochtones qui sont loin du pouvoir, qui sont loin de la prise de pouvoir. Est-ce qu'on peut limiter ça, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a plus d'autochtones dans les cartels? Est-ce qu'il y a, dans certaines régions, des rébellions des autochtones par rapport au régime établi? Est-ce qu'il y a une lecture qui peut se faire à ce niveau-là?
Ben oui et non. Il le nie en partie. C'est-à-dire que, tant qu'à moi, au Mexique, 80% des gens sont autochtones, mais pour eux... Oui. Et pour les Autochtones, c'est encore les gens justement dans les vraies réserves, entre guillemets, les territoires, mais 80% de la population mexicaine a au moins 50% de sang autochtone. Mais regardez juste les policiers, je donne cet exemple-là. Regardez les policiers, on le voit, là. C'est-à-dire tous les policiers, il n'y a pas de blanc là, qui est policier au Mexique. Là. Pourquoi? Parce que les blancs sont trop riches pour être policiers. Donc c'est sûr que c'est que les salaires des policiers, si tous les policiers viennent de l'État de Mexico, ben là, bon, si les policiers viennent tous de familles modestes qui ont besoin d'argent, vous comprenez que ça crée de la corruption facilement. Là. Donc, les gens de bonne famille jamais deviendraient policiers au Mexique.
Deviennent des politicos?
Plus, oui, effectivement. Donc, grande question. Écoutez, la corruption et comment on va s'en sortir, je ne le sais pas exactement. Peut-être avec l'aide des États-Unis, sans que ce soit trop paternaliste. En même temps, les Mexicains tiennent beaucoup à leur souveraineté. Et c'est ça qui est intéressant. Si on se déplace un peu, c'est-à-dire la présidente Claudia Sheinbaum, elle appliquait jusqu'à très récemment la fameuse politique « abrazos no balazos ». Ça veut dire des câlins et non des balles. Donc depuis 2018, depuis l'arrivée de Morena au pouvoir avec Andrés Manuel López Obrador, la politique du gouvernement mexicain, c'était le pacifisme, le laisser-faire. C'est-à-dire on ne faisait rien avec les cartels, on ne les attaquait pas.
Coexistence pacifique un peu, hein?
Oui, idéaliste, parce qu'on voulait éviter ce qu'on appelle vraiment l'escalade de la violence, parce que c'est vrai que plus vous combattez les cartels et plus les cartels se retrouvent avec des armes militaires, etc., qui viennent toujours des États-Unis. Donc, on pouvait comprendre les gouvernements plus à gauche de la région de dire, nous, on veut éviter la militarisation du conflit. Là. C'est-à-dire, plus on se bat, plus on a des armes disproportionnées des deux côtés, un peu comme
c'est
l'escalade
militaire. C'est un État dans un État. J'ai vu des vidéos. C'est un État dans un État. Ils ont des tanks. Moi, ma vision des choses avant cette semaine, ben, enfin, avant que je vois ça, finalement, c'était les cartels, c'est narcos, tu vois ça, le gars avec des lunettes fumées qui arrive, pis ci, pis ça, avec des gars qui ont des scènes vierges tatouées dans le dos, pis avec des guns. Non, ils sont équipés, c'est paramilitaire, là.
Oui, non.
C'est paramilitaire, c'est pas de l'attente. C'est un État dans un État, les cartels.
Ben c'est toujours une guerre civile un peu en gestation, là. Il faut l'admettre. Et donc, c'est le succès de Trump. Là. Je pense qu'il faut lui donner encore une fois. C'est-à-dire, Trump a manifestement forcé la présidente du Mexique à intervenir. Donc, pourquoi ça se passe maintenant? Tu as posé la question à Frank. Ça se passe parce que les États-Unis, maintenant, appliquent le retour de la doctrine Monroe. Et ça a été dit officiellement dans le communiqué de presse du gouvernement mexicain. Donc, c'est avec l'aide des États-Unis que ça a été mené. Mais en respectant la souveraineté mexicaine. Là, les États-Unis ont été très respectueux, très corrects. Hein, vraiment, on présente toujours Trump comme...
C'est toi qui tues le caïd.
C'est ça. Non, ils ont été très corrects. Honnêtement, on pourrait même parler d'un... C'est gentleman de la part des États-Unis, c'est-à-dire donner le mérite aux Mexicains pour que ça, tu sais, pour laver son linge sale en famille. Je trouve que ça a été quand même bien fait.
Mais est-ce que la présidente s'attire du trouble? A fait une commission de Donald?
Sans doute. Ben écoutez, la présidente, puis on ne sait pas, c'est-à-dire elle, Morena, le parti, ce fameux parti de gauche, est lui-même évidemment soupçonné d'avoir l'appui d'au moins un cartel. Donc, on s'en sort jamais. Hein. Quels intérêts sert vraiment la présidente? On le sait pas. T'sais, ça reste extrêmement nébuleux, tout ça. Mais elle gère bien ça. Quand même, elle s'en sort bien, la présidente. C'est pas Justin Trudeau, c'est pas Mark Carney, la présidente.
Est-ce qu'elle fait les commissions de Donald pour avoir un bon deal à négocier, en renégociant l'accord de libre-échange? Elle a se dit qu'elle va comporter comme du monde, là, comme ça, Donald va ménager.
Oui, les rapports de force sont très clairs. Les présidents mexicains se retrouvent toujours à faire un peu les commissions de Donald. C'est-à-dire même AMLO, qui est un personnage coriace, populiste, hein, qui embrassait des enfants en pleine pandémie à télé, la gauche antisanitariste. On voit des choses un peu étonnantes aussi ici, ça dépayse. Et même lui avait accepté de faire la police migratoire des États-Unis. Là. Donc, le Mexique avait décidé de bloquer les migrants à la frontière du Guatemala pour éviter qu'ils montent jusqu'aux États-Unis. Donc, AMLO avait cédé face à Trump. Donc, Trump, écoutez, il faut lui donner. Là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un quand même qui a des succès. Vous pouvez bien dire n'importe
sur
quoi.
Sur la frontière, si vous voulez, là. Oui.
Il y a sur la frontière.
Beaucoup de problèmes, beaucoup d'enjeux, à mon avis. Là. Epstein, mais tout ça, on pourrait en parler. Là. Pam Bondi, je la trouve pathétique. Cash Patel, je trouve qu'il est... Ouais. C'est devenu un personnage minable. Et Cash Patel, en passant, le vidéo dans le vestiaire, c'est pas beau. Là. C'est pas ta médaille, buddy.
Avec la bière, oui.
Bon, je pense que Gretzky a évité de se faire prendre en photo avec cette fois-là. Là. Mais en conclusion, toi, comme gringo blanc, t'as-tu déjà eu de la marde? T'as-tu déjà eu peur par rapport à ces individus-là louches? Parce que t'as quand même une blonde. Bon anniversaire de mariage, soit dit en passant.
Merci. Tu
sur les médias sociaux, félicitations. Et ta petite fille, est-ce que tu as déjà eu peur? Est-ce que tu dois te comporter différemment si tu es au Mexique que si tu es à Sainte-Foy, par exemple?
Ben oui, on est toujours une cible avec notre visage là, comme occidental. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. On peut pas s'exposer de la même façon. Je suis allé à Buenos Aires récemment, vous voyez, c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, c'est-à-dire, bon, moi, à Buenos Aires, je peux passer pour le local, ici, je passerai jamais pour le local. Donc, c'est sûr que quand les événements comme ça surviennent, faut pas être trop imprudent. T'sais. Puis, honnêtement, les Québécois sont encore naïfs. Moi, j'entends encore des Québécois qui entreprennent des road trips avec deux enfants au Mexique. Écoutez, ma femme n'en revient toujours pas. C'est carrément suicidaire, là. Tu sais, maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Là. Le Mexique, c'est un pays dangereux, extraordinaire. Mais quand même, ne soyez pas trop naïfs. Parce que les narcos, aussi, c'est un point que je voulais amener là, rapidement, c'est qu'ils font pas juste dans le trafic de drogue. Ils font du trafic humain. Ils font du trafic d'organes. Donc, c'est pas les gars de Netflix que vous voyez à Narcos Mexico. C'est des gens qui font assassiner, enterrer, et mettre des gens de l'acide. Écoutez, c'est pas drôle là, ce qui se passe. Il y a 300 000 personnes disparues au Mexique. Comprenez-vous que c'est presque la ville de Québec qui est disparue au Mexique, là? Donc ça, c'est des gens qui ont été kidnappés par les narcos. Donc ce sont des esclavagistes, les narcos. Donc tout ça est à prendre au sérieux. Après, j'y reviens, c'est le grand paradoxe. Écoutez, moi, j'ai passé plus que 5-6 ans de ma vie au total au Mexique et on m'a jamais volé mon portefeuille. Donc c'est un peu comme la loterie, tu sais, vous pouvez être chanceux. Mais moi, depuis que j'ai une fille, effectivement, Maurette, depuis que j'ai une femme aussi, je fais plus attention.
Merci beaucoup, JBG. Take care, fais attention à toi.
Un grand plaisir, monsieur.
Merci, salut, bye. 9h02. Dan, ça te tente-tu d'aller faire un road trip au Mexique? Il dit carrément, c'est suicidaire.
Oui, mais il y a beaucoup de monde qui le font.
Quand tu sors de l'hôtel, là...
Il y a beaucoup de monde qui le font pareil. Il faut que tu saches comment le faire, cependant. Il y a une façon de le faire. Il y a une façon de...
Un road trip avec des enfants dans le champ au Mexique, c'est sûr que c'est cave.
Oui, mais Dum, dis-toi que tous ceux qui sont à Puerto Vallarta, que le campeur, là, ils sont rendus.
Oui, mais ils restent là. Ils sont tranquilles.
Ah, je sais, mais ils sont rendus.
Ils parlent d'un safari... Dans la forêt, on va aller voir telle tribu, voir s'ils sont fins. Puerto Vallarta, ça fait longtemps que c'est habité par
les Québécois. Je sais, Dom, mais regarde une carte. Là, puis regarde quand tu pars du Texas puis tu descends jusqu'à Puerto Vallarta, par où
non,
tu
non,
passes.
Non, ça coupe. Faut que tu coupes.
Tu passes dans la jungle, là, tu passes partout. Il y a des façons de faire. Faut pas que tu sois sur les routes quand le soleil est couché.
Ça se peut que tu vois des kids de 4 ans prendre un Pepsi en bédaine, non?
Ah oui, ça va arriver, c'est sûr.
Ça va arriver, là.
C'est sûr que ça va arriver. Tu vas te faire suivre par du drôle de monde.
Du monde avec des scènes vierges, ils s'en vont pas à Notre-Dame-du-Cap pour un pèlerinage.
Faut que tu fasses ça en caravane. T'es pas tout seul.
Faut que tu te suives.
Oui,
faut que tu te...
absolument.
Faut que tu restes collé.